Et pour ouvrir le débat du jour, un bref retour sur le débat d'hier. Le débat de midi était consacré au rap, un genre musical souvent accusé de faire l'apologie de la consommation du cannabis. Peut-être pas tout à fait à tort. Quand le groupe NTM chante « Passe, passe le ouinge », il n'est pas vraiment question d'étanchéité d'un bac à douche. Mais il faut relever que la consommation de cannabis est aujourd'hui très présente et peut-être même banalisée par beaucoup d'autres biais culturels et médiatiques. En 2017, dans l'émission Dossier Tabou, l'animateur à gilet à poche Bernard de la Villardière a fumé un joint devant la caméra et confessé que ça l'excitait beaucoup. Plus surprenant encore, en 2014, ce sont les quelques 3 millions de téléspectateurs de la série Plus belle la vie qui ont eu droit à une formation en roulage de joints prodiguée par l'un des personnages. Alors certes, on n'en est pas encore au stade où Evelyne Delia va demander à Jean-Pierre Pernaut s'il n'a pas des feuilles, mais il faut tout de même noter que la consommation de cannabis est aujourd'hui dédiabolisée, normalisée en tout cas, dans ses représentations, et c'est un traitement à rebours du tabou législatif et politique de l'usage du cannabis en France, pays de l'Union européenne où sa consommation régulière est la plus importante, mais qui est aussi le plus répressif. On rentre dans le vif du sujet dans un instant. J'attends vos réactions, vos avis, vos expériences, anonymes ou pas, sur Twitter et sur franceinter.fr. Peut-on continuer à prohiber le cannabis? On déroule le sujet jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Nadia Dame sur France Inter.
Et pour échanger sur ce sujet à la fois brûlant et ancien, j'accueille mes invités. Jean-Paul Bruneau, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter. Vous êtes un ancien, un ex-policier de la brigade des stupéfiants et vous avez fondé il y a une vingtaine d'années EVDO pour Espoir du Val d'Oise. C'est une association, une communauté thérapeutique même, qui œuvre à la réinsertion sociale et professionnelle des toxicomanes, c'est bien ça?
Exact. Depuis 32 ans, je dirige bénévolement cette structure qui accueille actuellement 80 personnes.
Et combien de temps au sein de la brigade des stupéfiants en tant que policier dans votre ancienne
7
vie?
7 ans sur le département du Val d'Oise.
En duplex, depuis les studios France Bleu Provence, François-Michel Lambert, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue et merci d'être là. Vous êtes député Liberté et Territoire des Bouches-du-Rhône, après un passage par La République En Marche, et vous êtes surtout à l'origine d'une proposition de loi qui plaide pour une légalisation régulée du cannabis, co-signée par 22 députés. On va évidemment rentrer dans le détail de ce texte. C'était quand cette proposition de loi, rappelez-nous?
Elle a été présentée le 20-22 juin dernier et il y a plus de signataires depuis. Elle est assez soutenue.
De quel parti?
Donc nous avons les quatre bancs de l'hémicycle, Liberté et Territoire, mon groupe, La République En Marche, donc la majorité, le MoDem. Nous avons le Parti Socialiste, 5 groupes et la France Insoumise aussi.
Donc c'est plutôt transpartisan, c'est nouveau ça?
C'est le sujet démontre que ça dépasse l'habituelle barrière qui se crée au sein de l'Assemblée nationale entre chaque groupe, chacun chez soi. Non, là, c'est vraiment un sujet de société et les signataires, notamment de La République En Marche, qui soutiennent cette démarche, sont très volontaristes parce qu'ils sont face à la réalité de ce qu'est le cannabis en France et comment nous devons apporter une réponse. Et nous, députés, parlementaires, nous devons nous engager à être à la hauteur de ce défi. Défi de société.
Et ce défi, c'est tout le thème du débat de midi. Mon troisième invité est en retard. Il est coincé dans les bouchons, mais il va arriver, j'espère en tout cas. Fabrice Olivier, qui est militant historique de la réforme des politiques de drogue et qui dirige l'association Autosupport des usagers de drogue, autrement dit l'ASUD. Une première question pour tous les deux, qui est évidemment liée à l'actualité, puisqu'on a appris cette semaine que le Luxembourg allait légaliser l'usage récréatif du cannabis d'ici 2 ans. Les contours sont encore assez vagues à ce stade, mais le Grand-Duché parle d'instaurer une chaîne de production et de vente nationale. Comment accueillez-vous cette décision, Jean-Paul Bruneau?
Alors là encore, il faut bien analyser le pourquoi. Il y a un dérapage au niveau du contrôle des frontières, bien sûr, et qu'il n'y a plus de frontières en Europe. Et ce qui s'est passé en Hollande avec une restriction des libertés en termes de consommation pousse à la fois le trafic et la production de cannabis vers des pays proches. Et bien sûr, la consommation se déplace et augmente dans certains pays européens. La France est particulièrement touchée.
François-Michel Lambert, est-ce qu'il y a une espèce de vague de fond qui signifierait que la France est en train d'être isolée sur ces questions-là et d'être minoritaire?
Tout à fait. C'est exactement ce que vous venez de dire. La France va être l'un des derniers pays d'Europe à avoir une législation réadaptée à la question du cannabis.
Rappelez-nous quels sont les pays qui sont plus en pointe, plus en avance, ou en tout cas qui ont changé leur politique publique sur le cannabis par rapport à nous. Les pays voisins.
Alors il y a certains qui sont allés très très loin, comme le Portugal, c'est même au-delà du cannabis, et ça fait déjà de nombreuses années avec des résultats extrêmement positifs au niveau notamment de santé publique. Si je remonte dans l'Europe, je parlerai de l'Espagne, qui a une certaine marge de tolérance, et au nord, vous avez notamment les Pays-Bas, l'Allemagne. Voilà, ce sont ces pays, la Suisse sur la partie thérapeutique, et puis au milieu, il se trouve un bloc dans ses certitudes.
Les irréductibles gaulois, c'est ça.
Dans ses certitudes face au cannabis, c'est une drogue qu'il faut combattre quoi qu'il advienne. On peut déjà donner des chiffres, c'est 128 000 mises en cause par les forces de l'ordre et la justice par an. Et en face, c'est 5 millions de consommateurs. C'est le pays où nous avons le plus haut niveau de consommateurs de cannabis. Oui. Donc totalement 5 millions de personnes totalement en dehors de la loi, 128 000 qui sont interpellées et mises en procédure judiciaire par an, c'est colossal avec des résultats, on va en reparler,
qui ne
sont vraiment pas du tout à la hauteur, notamment d'un point de vue de santé publique.
On va en reparler évidemment et l'émission se fait aussi avec vous, amis auditeurs. On attend vos questions, votre avis, vos témoignages sur Twitter ou sur franceinter.fr à la page Le Débat de Midi. La discussion sur la légalisation du cannabis reprend juste après Oxmo Puccino et les Belges Caballero et Jean Jass. Tendez bien l'oreille, il y a des gros morceaux de cannabis dedans.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp, ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe, c'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp, ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe, c'est réservé aux membres du club. Banana, cheese, blueberry, elle m'embrasse et je loupe mes rimes. Objectif à peine dévoilé, space cookie par chef étoilé. Les ladies nous remercient. Arrivé jeudi, reparti mardi. Je rallume le spaghetti si samedi. Appelle tes amis si ça le dit. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Dispensaire à LA.
Petit club à Barcelone.
Coffee shop à Dame.
Je suis brisé comme porte-à-l'aise.
Un nouveau style de locomotive.
Ah, protège-toi à nos concerts. Ah,
parce qu'il y aura des pogos d'office. Je donnerai aucun de mes bocaux aux flics.
Avant l'égalité, on a légalisé. Garantie, l'amour, la quantité, la qualité.
La tête entre les nuages et les avions. Ça fait 10 ans que je suis en élévation. Les barreaux qui nous enferment, faudrait que nous les effacions. Avec Marie-Jeanne, j'ai préparé l'évasion.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Y'a pas écrit entrée gratuite. Reste comme sur ta tweet. Trinque ça parle extra tweet. Billet dans un sac d'or. Concu dans la salle d'or. Je célèbre avec un salto. Désolé si j'ai l'air désagréable. C'est parce que j'suis encore clean. J'suis trop chaud. Allumer la clim. J'suis sapé comme si j'avais un Clio.
J'me sens lourd comme une enclume. J'suis membre du club. Elle colle comme la glu.
Grande bouffée, air pur, les clés sont perdues, où est la voiture?
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp.
Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Midi 15 sur France Inter, au menu du débat de midi, pénalisation et légalisation du cannabis. L'émission a été préparée par Cyril Marchand.
Hey Jamy, Viens voir.
Du cannabis? Mais Fred, qu'est-ce que tu fais? C'est totalement interdit.
Ah mais non, je te promets, je fais rien d'illégal. Viens me rejoindre. Je suis en Hollande.
En 2018, 45% des 18-64 ans ont déjà fumé du cannabis dans leur vie et 11% en ont consommé dans l'année.
La molécule Delta 9, tétrahydrocannabinol.
Le fameux THC.
Et t'endors pas sur le joint, Saïd.
Oh, tu fumais plus.
Environ 919 millions d'euros. C'est ce que coûte chaque année la politique de lutte contre le cannabis, selon les estimations du rapport. Fort des exemples étrangers qui ont légalisé le cannabis récréatif, les auteurs imaginent donc que la France pourrait récolter à minima 2 milliards d'euros par an.
Je rêve là, hein. Non mais vas-y, propose-leur du chip entier.
Aujourd'hui, le cannabis pose un problème de sécurité, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue. Le sujet est ouvert et doit être considéré.
Évidemment qu'on allait mettre du Bob Marley, on n'allait pas s'en priver. Et mon invité était libéré des transports en commun ou des taxis, je ne sais plus très bien. Fabrice Olivet, mon troisième invité. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle donc que vous êtes militant de historique de la réforme des politiques de drogue et que vous dirigez l'association Autosupport des usagers de drogue, la SUD. Et je précise également qu'on joindra dans un instant par téléphone Marie-Geoffrey Roustide, qui est sociologue et chercheuse à l'INSERM, pour analyser les comportements des usagers de drogue et puis les effets également des stéréotypes sur ces derniers, sur les usagers. On vient d'entendre ce petit mix qui pose un peu le débat, mais pour savoir clairement de quoi et de qui on parle. Est-ce qu'on peut faire le portrait robot du fumeur de joint français et savoir qui sont ces 5 millions de Français qui ont fumé du cannabis là cette dernière année? C'est les chiffres de l'Observatoire de drogue et des toxicomanies, Fabrice Olivet.
Ah bah oui, c'est une excellente question. Parce qu'en fait, c'est de plus en plus, c'est monsieur et madame tout le monde, hein. Et puis si on faisait une enquête un peu serrée dans vos locaux, chère madame, je pense qu'on aurait une petite photographie de la délinquance moyenne que représente le fait de fumer un joint qui est maintenant
c'est partout, c'est ce que vous dites.
Monsieur et madame, tout le monde.
Oui.
Il s'agit, alors on peut pas dénoncer les gens parce que ça reste encore une fois un délit. Ça va être de plus en plus le problème de la vente, je pense, plus que celui de la consommation, parce que les gens qui sont pour le status quo légal, en général, ont comme argument de dire que finalement, pour la consommation, bon, la police n'est pas trop regardante, encore que je dirais que ça dépend du quartier où vous êtes contrôlé, hein. Mais pour la vente, par contre, il y a un souci. Et c'est bien que le sujet de l'émission soit la légalisation, parce que souvent, les deux débats sont confondus. Décriminalisation, qui concerne le simple usage, et légalisation qui concerne les problèmes de vente. Et je pense que de plus en plus, maintenant, le sujet pour la France, ça va être la question de la mise à disposition d'une marchandise qui est demandée, j'insiste sur le terme de demande, par monsieur et madame tout le monde.
Alors précisément, parce que sur ce sujet, on entend des politiques, on entend le milieu médical, des consommateurs, il y a une voix qui porte moins, et pour cause, ils se font tout petits, ce sont les dealers. Il y a un dealer qui a témoigné sur le site combini.fr et qui détaille des profils très variés de sa clientèle. Il dit que ses clients, ce sont des artistes, des artisans, des employés du public, du privé, des chefs d'entreprise, des infirmières, et il ajoute qu'il a même vu un de ses clients se faire interviewer à la télé au cours d'un meeting de Nicolas Sarkozy. Jean-Paul Bruno, ça veut dire qu'il n'y a pas de marqueur social aujourd'hui sur la consommation du cannabis, et que comme le disait même fermement Fabrice Olivet, tout le monde fume, ou presque, en France.
Non, pas tout le monde quand même, il faut pas... On a 1 500 000 consommateurs quotidiens, ou en tout cas réguliers. Si on prend ceux qui abusent, on a à peu près 700 000 personnes qui sont dépendantes.
À partir de quand c'est un abus? Quelle distinction vous faites entre la consommation
jours,
et l'abus?
Si tous les jours on a besoin de son joint pour fonctionner dans la vie, ou pour fuir ses problèmes, ou pour être heureux, ou en tout cas avoir l'illusion d'être heureux, on peut se poser des questions. C'est compliqué de développer des compétences psychosociales quand on est dépendant, ou en tout cas fumeur régulier. À partir du moment où on a ce frein qui ne permet pas d'évoluer. Donc il y a cette problématique, et si par expérimentation on libéralise, je dirais, l'usage, il y aura certainement beaucoup plus de consommation, et notamment chez les fumeurs de tabac, qui trouveront plus exotique de fumer un joint que de fumer du tabac. Cependant, il faudra, je pense, rétablir une vérité sur le risque encouru sur le plan santé. C'est quand même 79 000 morts par an en France liées aux maladies du fumeur. On oublie de préciser...
Du fumeur de tabac, hein,
donc. On parle du tabac, mais on oublie de dire que dans le tabac, il n'y a pas que du tabac dans les cigarettes roulées sous forme de joint. Et le cannabis est considéré par beaucoup de spécialistes et l'Académie nationale de médecine 7 fois plus cancérigène que le tabac. Donc l'intérêt général, c'est quand même, et le principe de précaution, c'est de veiller à la santé du plus grand nombre et informer objectivement sur le risque d'usage des produits tels que le cannabis.
On va approfondir quand même cette question du profil du fumeur de joint en France, ou d'ailleurs de la fumeuse, avec Marie-Geoffrey Roustide qui nous a rejoint par téléphone. Bonjour.
Bonjour,
donc je rappelle que vous êtes sociologue et chargée de recherche à l'INSERM, et vous allez peut-être nous aider à comprendre comment les stéréotypes agissent sur la consommation des stupéfiants en général, et peut-être du cannabis en particulier. Je voudrais juste qu'on commence par la question du genre. Les données de Santé publique France montrent que les femmes sont moins nombreuses à consommer du cannabis. On sait par exemple dans les drogues de manière générale, dans les structures de soins, elles sont 20% contre 80% d'hommes. Comment est-ce qu'on explique cet écart? Comment la sociologue que vous êtes explique cet écart?
Alors, cet écart en matière de consommation, il est avant tout lié aux questions des représentations sociales, hein, comme vous l'avez évoqué déjà dans votre débat. La consommation de drogue est très stigmatisée en France, en raison donc du cadre prohibitif donc qu'a choisi la France sur la question des drogues. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a des représentations sociales donc très négatives, même encore aujourd'hui, hein, sur la question du cannabis. On dit qu'il y a une normalisation de la consommation du cannabis, mais il y a quand même encore des représentations sociales négatives sur ce sujet. Et donc, les drogues et le cannabis en fait partie, sont associés à des représentations plus masculines, plus viriles, autour des questions de prise de risque. Et on attend des femmes, généralement, enfin, autour des femmes, on a des représentations sociales plus autour, enfin, très stéréotypées autour de la maternité, autour du fait de prendre soin de soi. Oui. Et donc, en fait, c'est également le poids de ces représentations, donc très genrées, qui a un impact sur les écarts de consommation par rapport aux attentes sociales que les jeunes ont pu intégrer. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, que dans les pays scandinaves, pour lesquels les représentations de genre donc sont moins inégalitaires qu'en France, on a des niveaux de consommation qui sont généralement plus similaires entre les garçons et les filles. Et ce qui est intéressant également, c'est que dans les pays scandinaves, on a également des niveaux de consommation qui sont beaucoup plus bas pour le cannabis que ce qu'on peut observer en France. Donc voilà un des premiers niveaux d'explication.
Revenons juste sur les représentations viriles dont vous parliez. Ça veut dire que la consommation de drogue, de cannabis ou autre, c'est synonyme dans l'esprit des gens, dans l'esprit des Français, de puissance, d'affirmation de soi, quelque chose d'attaché à la virilité?
Alors, ce qu'on peut dire, ça, tout dépend des drogues. C'est-à-dire que c'est le cas de l'alcool, par exemple, c'est le cas de drogues qui est une drogue, hein, également. C'est le cas même
légal.
Si elle a un statut légal. Hein, il faut quand même pas oublier de rappeler que l'alcool cause environ 50 000 morts par an, donc beaucoup plus de morts liées à la consommation d'alcool ou à la consommation de tabac, aux alentours de 70 000 que la consommation de cannabis, hein, dont on parle aujourd'hui. La question de l'alcool, la question de la cocaïne sont très associées à la performance. La question du cannabis, comme c'est un produit illicite, reste associée à la question de la prise de risque. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est associé à des représentations plus viriles. Et puis les femmes, on les attend plutôt autour de la côté, enfin du côté de la maternité,
de la
chez les jeunes femmes. La raison, et donc c'est la raison pour laquelle on peut observer des différences en termes de niveau de consommation. Alors, ce qui est intéressant également, la question du genre est une question intéressante, mais sur la consommation de drogue, même si, comme le disait Fabrice Olivier, ça concerne de plus en plus monsieur et madame tout le monde, il y a également des différences en termes de milieu social et qui vont parfois à l'encontre de ce que l'on pourrait penser. Il y a une étude très intéressante qui avait été menée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies à Paris il y a quelques années et qui montrait que, contrairement aux représentations stéréotypées qu'on peut avoir, ce sont les usagers issus des milieux sociaux les plus favorisés qui vont avoir tendance à plus expérimenter des drogues comme le cannabis, par exemple. Donc, il y avait une étude qui avait été faite et qui montrait que c'était les adolescents qui habitaient dans le 16e, 17e et 15e arrondissement qui avaient les niveaux de cannabis les plus élevés. Pour une raison très simple, parce que pour pouvoir expérimenter du cannabis, il faut avoir de l'argent de poche. Et donc, il faut avoir de l'argent.
Un pouvoir d'achat,
donc,
oui.
Voilà, un pouvoir d'achat. Et donc, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'expérimentation de drogue, et en particulier de cannabis ou de cocaïne, est souvent plus élevée dans les milieux sociaux favorisés. En revanche, ce qui est préoccupant, c'est que quand on s'intéresse aux usages plus problématiques de cannabis, là on voit que ce sont les jeunes issus de milieux sociaux plus défavorisés qui sont plus concernés, pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes supports sociaux, ils n'ont pas les mêmes relations sociales que les jeunes issus de milieux sociaux plus favorisés, ce qui fait qu'un jeune issu d'un milieu social plus défavorisé qui va consommer du cannabis et qui va être dans une situation problématique vis-à-vis de cette consommation aura moins de facilité qu'un jeune issu d'un milieu social favorisé à avoir recours à une prise en charge adaptée.
Oui.
Mais ce qui est important de rappeler également dans le débat, c'est que la majorité des consommateurs de cannabis sont dans des usages régulés de cannabis. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de la moitié des Français qui ont déjà expérimenté le cannabis au moins une fois au cours de leur vie. Et donc, et ceux qui passent ensuite à une consommation problématique sont véritablement, sont une minorité. Donc, c'est ce qu'il faut également avoir en tête, je pense, dans le débat aujourd'hui, pour pas se tromper de combat et de débat.
Ouais, une dernière question pour vous, Marie-Geoffrey Roustide. Quel est votre point de vue, votre analyse sur l'état de l'opinion? Comment est-ce que les Français perçoivent aujourd'hui les drogues et les politiques publiques qui les concernent? On a l'impression d'être dans une forme d'acceptation, de tolérance supérieure à celle d'il y a encore quelques années, une dizaine d'années. Est-ce que ça a effectivement changé?
Oui, les données de l'enquête Europe, donc qui est une enquête sur la perception des drogues et des politiques publiques qui a été menée par l'OFDT et qui vient d'être rendue publique, sont très intéressantes à ce sujet. En fait, ce qu'elles montrent, c'est que, par exemple, sur le cannabis, de moins en moins de Français sont convaincus par le fait de mettre en place donc des politiques punitives et répressives vis-à-vis des consommateurs de cannabis. Donc ça, c'est un résultat très intéressant de l'enquête. Et donc, il y a 38% des Français étaient favorables à la mise en place donc de politiques répressives vis-à-vis des consommateurs. Ils sont plus qu'un quart aujourd'hui. Donc ça, c'est un résultat intéressant. Ce qu'on voit également, c'est que quand on interroge, par exemple, les Français sur la mise en place du cannabis thérapeutique,
oui,
qui vient
ça, on va évidemment
d'être,
parler.
Voilà, mise en place en France, en tout cas, une autorisation a été mise en place par l'ANSM récemment, et donc là, on était également en retard. On voit que près de 90% des Français sont favorables à cette mesure. Donc, on voit qu'il y a une véritable évolution. Alors là, ce dont je voulais parler également sur la question de l'évolution
très, très,
des
très
drogues,
vite parce qu'on va être en
très
retard.
Vite, c'est la question de la réduction des risques. J'espère que vous évoquerez ce sujet-là.
Oui.
C'est vraiment une manière très différente, voilà, d'appréhender la question des drogues. On a également une évolution très forte dans la dernière enquête Europe et près de 80% des Français sont favorables, par exemple, à la mise en place des programmes d'échange de seringues actuellement en France, ce qui est une évolution très importante dans la manière d'appréhender les drogues aujourd'hui. Et donc, on voit qu'on a une acceptation de plus en plus forte, donc un décalage entre les politiques publiques qui sont proposées et les opinions des Français.
Merci encore Marie-Geoffrey Roustide, merci de nous avoir accordé un instant. Je rappelle que vous êtes sociologue et chargée de recherche à l'INSERM. François-Michel Lambert, député de la 10e circonscription, voulait réagir à ce qui vient de se dire et notamment aux chiffres qui viennent d'être évoqués sur l'opinion publique française. François-Michel Lambert, je vous écoute.
Je trouvais très intéressante et même remarquable l'intervention précédente qui recontextualise le sujet. Nul ne veut nier que le cannabis, et d'abord qu'est-ce que c'est que le cannabis, mais disons le mot de façon générique, est une drogue. Je vais quand même préciser
que
le cannabis...
Une drogue douce, dit-on. Dans le langage commun, on en parle comme d'une drogue douce.
Oui, ça dépend du niveau du psychotrope, le THC, dont vous avez parlé tout à l'heure.
La substance active.
La substance active qui peut plus ou moins impacter le consommateur. Mais ce qui a été dit, c'est aujourd'hui, nous devons être dans une démarche de santé publique. Nous ne pouvons pas accepter que un Français sur deux ait consommé du cannabis. Quel cannabis ? Il l'a obtenu comment ? Quel est le dealer qui lui a donné ? Ne l'a-t-il pas coupé avec d'autres produits ? Ne va-t-il pas le tenter à prendre autre chose que du cannabis ? Ne se retrouve-t-il pas entraîné dans quelque chose ? Puisque tout cela est souterrain, ça ne permet aucun cadre. 5 millions de consommateurs. 1,2 million par jour, 5 millions par an. Moi, quand je suis face à autant de personnes qui prennent un produit absolument pas contrôlé, j'ai des grandes inquiétudes. Et d'ailleurs, je vais préciser, une des signataires, médecin de profession, m'a dit, moi je soutiens, parce qu'un jour, on nous avons vu arriver dans un petit hôpital de province où elle exerce, une dizaine de personnes qui étaient complètement dans un trip, comme on le dit, car leur dealer habituel avait avait changé le cannabis qu'il leur fournissait. Donc on voit bien que c'est un impact colossal, un risque colossal que nous faisons porter, notamment sur les plus jeunes. Et c'est pour ça que nous proposons dans la légalisation sous contrôle d'État, par un monopole d'État, de la graine à la distribution, chez les buralistes, la distribution, d'un certain type de produits maîtrisés sur le psychotrope, l'élément actif, avec des règles de distribution. Et surtout, comme c'est un monopole d'État, il n'aura pas vocation à croître en termes de clients, mais je dirais à décroître, c'est-à-dire à permettre à ceux qui veulent consommer d'être en sécurité sur ce qu'ils vont acheter, mais par là même aussi de les inviter à se re-questionner par rapport à est-ce que vous avez besoin de consommer du cannabis, c'est-à-dire ne pas être comme ce qu'on peut voir dans d'autres pays où la légalisation s'est faite surtout pour faire du fric, permettez-moi le terme, où il y a 10, 20, 30 sociétés qui concourent à trouver plus de clients au lieu de faire baisser. Donc ce n'est pas qu'une légalisation que nous devons mettre en œuvre, c'est une politique de santé publique globale qui fait baisser très vite, et j'en finirai là-dessus, le risque que nous faisons courir à 5 millions de Français quotidiennement.
Alors, je vous soumets à tous les trois une réaction d'un auditeur qui nous dit, qu'on dit ici dans cette émission qu'en France la répression est importante, mais que c'est uniquement dans les textes et qu'en réalité il n'y a pas plus laxiste que nos magistrats français. Jean-Paul Bruno, la France est considérée comme l'un des pays les moins indulgents. On a une loi qui n'a pas bougé pendant plusieurs décennies. Pendant 50 ans, le trafic, l'usage de cannabis était puni de 3 750 euros d'amende. Un an de prison, là ça a changé, il y a une amende forfaitaire de 200 euros. Mais qu'est-ce que ça a changé concrètement sur le terrain ? Est-ce que les gens fument moins ? Est-ce qu'il y a moins de trafiquants ? Qu'est-ce que ça a changé ?
Sur le terrain, donc, quand on a laissé de très nombreuses années la non-application de la loi parce qu'elle était difficilement applicable, ça nécessitait une réforme beaucoup plus, je dirais, précoce. Aujourd'hui, c'est un peu tard. On veut vraiment rendre efficace le côté sanction sur le plan éducatif, il faut qu'elle soit adaptée à la situation du consommateur, bien entendu. Si on a affaire à un usagère-vendeur ou à un cannabiculteur, on n'est pas du tout dans le même contexte.
Fabrice Olivier, quel est le combat aujourd'hui qui se joue de la part du politique ? On fait la guerre à la drogue ou au consommateur ? Qu'est-ce qui se passe ?
Il faut arrêter d'aligner les contre-vérités, mais je pense qu'on est sur le bon chemin
c'est faux ce que dit Jean-Paul Bruno.
Le niveau d'interpellation n'a jamais cessé d'augmenter depuis 1970.
L'interpellation de consommateurs.
C'est-à-dire
ou de
des
dealers.
Gens qui sont arrêtés dans la rue et qu'on met en garde à vue et non. qui ensuite, suivant leur origine sociale, passent un plus ou moins mauvais quart d'heure, voire ce qui se termine en incarcération.
C'est-à-dire
selon ça sert à rien de se prendre. Alors,
Fabrice Olivier, juste pour être précis,
dernières,
selon leur origine sociale,
60 000 personnes
qu'est-ce que ça veut dire
qui sont arrêtées tous les ans et placées en garde à vue. Donc 90% pour des questions de cannabis.
Il y a une inégalité
sur la,
de la
question
répression.
De l'augmentation de la consommation, qui est vraiment le gros cheval de bataille, la France est très mauvaise, mais ça n'a pas de lien avec la question légale, parce que ça aussi tout le monde le sait depuis longtemps, mais ça va finir par impacter l'opinion publique. Les pays qui ont été laxistes, entre guillemets, sur le plan légal, ont quelquefois des niveaux de consommation inférieurs, comme la Hollande. Les expériences du Colorado, qui sont stigmatisées un peu sous l'angle « on fait n'importe quoi avec le marché », montrent qu'il n'y a pas d'augmentation de consommation. À l'inverse, des pays comme la Suède, qui sont extrêmement répressifs, ont des niveaux très bas. Donc on se rend bien compte que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la relation culturelle qu'une population a avec une substance. Et en l'occurrence, pour le cannabis, c'est ça qui est en train de changer. Parce que l'impact sur la santé publique, c'est beaucoup moins les 10% ou 20% que Marie vous a expliqué qui sont dépendants.
Marie-Geoffrey,
c'est la
répression
qui s'installe dans des quartiers, qui fait que des quartiers entiers sont soumis à la fourniture de cette substance pour la classe moyenne qui va très très bien, comme le dit Marie, c'est-à-dire que les gens socialement insérés, finalement, gèrent assez bien cette
ce
substance.
Ce sont des gens qui peuvent fumer chez eux tranquillement qui et qui sont donc moins vulnérables
codes,
à la répression.
Et qui ont les codes culturels et sociaux pour pouvoir domestiquer la substance. Dans les grandes écoles, on le dit pas ça, parce que ça c'est des choses taboues. Dans les grandes écoles, il y a les gens qui passent l'agrégation, les gens qui sont à la polytechnique, les gens qui sont à normal sup, il y a un nombre de comptes de consommateurs qui est connu, et ça fait partie des choses qu'il ne faut pas dire en France.
Jean-Paul Bruno est en train de fulminer littéralement dans le studio.
Oui, non, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Le côté répressif n'est pas appliqué en France. Il y a l'avertissement à usager qui est préconisé pratiquement dans tous les cas. On ne met plus en garde à vue des fumeurs, de simples fumeurs de cannabis.
Les petits rebeux de banlieue, on leur fait un avertissement quand,
Fabrice Olivier, ouais.
Quand il y a trafic, il y a une garde à vue, bien entendu. L'usage-revente, c'est plutôt lié au trafic.
On peut passer la nuit en prison aujourd'hui, pardon, pour avoir fumé un joint.
Non.
Dans la rue.
Moi qui reçois des toxicomanes.
Bien sûr que si garde à vue, je passe la nuit en garde à vue, oui, voire 48 heures en garde à vue, voire 72 heures en garde à vue.
Oui, mais ça, faut pas dire n'importe quoi là-dessus. Et je suis bien placé puisque je reçois en permanence depuis 32 ans des malades dépendants qui sont passés par le
cannabis.
Par le cannabis.
Oui, enfin,
pour
c'est quand
beaucoup.
Même pas la grande majorité des dépendants, soyons.
Non, mais je n'ai jamais vu un usager de cannabis en garde à vue passer dans la case prison.
Venez dans le 93, dans mon département, prison. Je vous invite, vous allez en voir
Fabrice
tous les
Olivier, Jean-Paul Bruno et François-Michel Lambert qui au téléphone, on essaye de pas trop se parler dessus, que ce soit audible pour tout le monde. Un dernier mot, Jean-Paul Bruno, avant de
alors,
calmer les esprits avec un peu de musique.
Les meilleures informations sur le côté répressif ont été fournies par Éric Poulia et Robert Reda, deux députés qui ont déposé en 2018 un rapport.
Quelle partie?
Un rapport sur l'usage des drogues en France.
Et la République en marche et
la République
les Républicains.
En marche, nous dit Fabrice Olivier, merci.
Donc, ce rapport est complet là-dessus et donne tout le détail, chiffres et avec des préconisations sur une nouvelle politique en matière de répression,
oui,
notamment
sur
l'amende forfaitaire. Et une application, bien sûr, sur les mesures alternatives qui me semblent très importantes.
Non, mais ça va,
Fabrice
ça va
Olivier,
dans le bon sens,
un tout dernier.
Encore une fois, il y a une population dans ces cas-là qui est stigmatisée, c'est toujours la même, c'est celle qu'on arrête dans la rue.
C'est quoi, c'est les Arabes et les Noirs, c'est ce que vous
mais
êtes
oui,
en train de dire.
À un moment, il faut mettre les pieds dans le plat, et les violences policières qui en découlent. C'est ça le dossier, en vérité.
Alors, à défaut de calmer les esprits, on va calmer les esprits pardon, en écoutant Alain Bachung, et on reste dans le sujet, c'est vos luttes.
Volute partons fumer, volute fond des nuées de scrupules. Volute partons fumer, vers des flûtes enchantées,
et des cruelles espérances me lance des dagues et des lances en toute innocence. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. Volutes partent en fumée sous les yeux embués d'étranges libellules. Pas une grimace et un rictus de plus. Je fais deux heures sur. Je m'en donne de la peine. Je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages sans échafaudage. Et mon corps de se vouer à des lunes surdouées aux courbes souveraines. Pleine, pleine. Volutes partent en fumée sous des soleils qui s'ignorent. Dors, dormir. Mes réponses allongées. Mais que dire, mais que faire. Mais comment ça tient l'air. Ces deux hémisphères. Par quel mystère. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages, sans échafaudage.
Midi 42 sur France Inter, merci à Thierry Dupin qui a signé la programmation musicale et un merci tout particulier pour ce Bachung.
Le débat du midi, Nadia Dam sur France Inter.
Débat de midi est plutôt chaud, consacré à la question de la légalisation du cannabis. On a évidemment énormément de réactions, de questions, d'avis, d'expériences d'auditeurs. Je vous en cite un qui nous dit ceci. La survie économique des banlieues dites sensibles est assise sur le commerce illégal du cannabis. N'est-ce pas une des raisons du maintien de la prohibition? François-Michel Lambert, c'est effectivement un argument qui est employé par les opposants à la légalisation. Ils disent que ça déstabiliserait des quartiers puisque des foyers entiers vivent du cannabis, de l'économie souterraine. En citant Marseille, par exemple. Certains quartiers de Marseille. Vous l'entendez, ça, cet argument ?
Bah non. Donc, on accepte un immobilisme, puisque moi, si j'ai pas une contre-offre, je le subis, hein, dans ma 10e circonscription qui jouxte le quartier de Marseille. Dans les Bouches-du-Rhône. Nous, la question du trafic du cannabis, des drogues, c'est une réalité. C'est une réalité du quotidien, de la mère de famille qui fait un détour parce qu'il y a des lieux de deal. C'est des règlements de compte devant le lycée de Gardanne, ma propre ville, etc.
Des violences,
etc. Donc, on dit, on touche à rien, on accepte que ça existe depuis 20, 30, 50 ans et que ça dure encore un ou deux siècles, ou en inaction. Je rappelle que la légalisation sous contrôle d'État, ma proposition de loi, des experts l'ont dit, ça va générer 2 milliards d'euros de fiscalité, puisque
et des emplois.
La vente de cannabis, ça créera une fiscalité, c'est 30 à 50 000 emplois, ouais. Essentiellement des emplois dans les territoires, puisqu'il faut produire en France ce cannabis. On est déjà un pays qui sait produire du tabac.
Alors, c'est
déjà une
plante réglementée. Mais parce que je veux vraiment comprendre. Si la France légalise le cannabis, à quoi ça ressemble? Ça va être cultivé par des agriculteurs? Ça va être vendu ou par des buralistes, des pharmaciens? Combien ça va coûter? Concrètement, à quoi ça ressemble une France où la consommation du cannabis est légale?
Alors ceux qui ont mon âge ou un peu plus, hein, 50 ans passés, connaissent la Ceuta, savent que la Ceuta était une société d'État qui faisait produire par des agriculteurs, notamment dans le Sud-Ouest, une partie de ma famille est du Sud-Ouest, les plants de tabac de façon très encadrée, avec les graines fournies par la Ceuta, et tout était surveillé. C'est le mot qu'il faut employer par des agents de l'État pour éviter qu'il y ait du tabac qui soit volé, qui disparaisse, ouais. Qui passait par des centres de transformation de production de cigarettes. Je donnerai pas des marques, mais les fameuses cigarettes françaises, et qui est distribué par les buralistes. Eh bien, c'est exactement la même chose. Nous avons cette culture, ce savoir-faire en France de la semence jusqu'au buraliste. On peut encadrer, surveiller la production d'un cannabis. Donc l'idée, c'est les graines choisies par rapport justement au niveau de psychotropes, d'agents actifs, sont fournies à des agriculteurs agréés qui seront contrôlés tout au long de la production agricole, ramassés, transformés et distribués dans les réseaux buralistes qui ont des règles très strictes de non-vente à des mineurs. Alors après, il y a toujours des buralistes qui ne
respectent pas. Fabrice Olivier, juste pour avoir un autre exemple, aux Pays-Bas, le cannabis est toléré, le commerce du cannabis est toléré. Ça n'a pas enrayé le marché noir et le trafic du cannabis.
Le commerce n'est pas légalisé aux Pays-Bas.
C'est pas légal, j'ai dit toléré.
Le backdoor problème, et c'est la contradiction, d'ailleurs, beaucoup liée à l'action de la France, parce que faut quand même pas oublier que c'est un petit pays, hein, les Pays-Bas, et que très souvent, le gendarme français est venu le gronder en disant « c'est pas bien ce que vous faites ». Et du coup, il y a toujours eu cette contradiction entre une consommation tolérée et un backdoor problème, c'est-à-dire c'est la mafia en fait qui fournit les coffee shops. Après, les Hollandais, contrairement à ce qu'on dit, ils ne reviennent absolument pas sur le politique, ils ont un problème d'étrangers. Ils ont un problème de tourisme du cannabis. Donc, ils ont interdit le coffee shop à un certain nombre de gens, dont les Français.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Je rappelais qu'aux Pays-Bas, le commerce du cannabis était toléré. Il y a des coffee shops. Ça n'a pas fait disparaître pour autant la mafia que vous décrivez.
Mais oui, mais
Jean-Paul
Bruneau
légalisé. Est-ce que ça conduit mécaniquement, je vous redonne la parole dans un instant, mais juste pour écouter Jean-Paul Bruneau. Légaliser, ça veut dire mécaniquement assainir le marché du cannabis. C'est la fin des trafics, c'est la fin des violences.
Dans nos banlieue, on verra simplement l'adaptation du milieu à d'autres produits, et encore aujourd'hui, ils sont en concurrence avec l'autoculture, c'est-à-dire l'autoproduction de cannabis.
Le do it yourself à la maison.
Et ils s'adaptent, puisqu'ils proposent des produits fortement dosés en THC, qui posent problème. Et il y a bien sûr le darknet, il y a d'autres moyens de se fournir. Il y aura toujours un marché parallèle et le besoin de contrôle, donc de policiers, d'autant plus s'il y a des cultures en France. Et il faut pas oublier que la culture de cannabis est la plus consommatrice en énergie dans notre écosystème, c'est en matière d'eau et d'électricité. Et aux États-Unis, c'est déjà un problème qui est signalé par une trentaine de pays qui ont légalisé l'usage thérapeutique, puisque ça consomme plus de 1% de toute l'énergie électrique des États-Unis.
Fabrice Olivier acquiesce, mais pas François-Michel Lambert. On l'écoute dans un instant. Fabrice Olivier.
C'est qu'il y aura toujours des cannabiculteurs, et notamment des gens qui sont malades et qui cultivent du cannabis, parce que le cannabis, contrairement au tabac, c'est assez facile à produire pour ensuite le fumer, mais avec des niveaux de consommation qui peuvent être très très faibles. Et ça va être compliqué avec cette proposition de CEITA de mettre fin à la question des cannabiculteurs, qui est une question de droits humains, en fait, qui est une question de liberté individuelle. Je veux quand même revenir à votre histoire de Pays-Bas. Je comprends pas que vous ayez pas compris ma réponse. Parce que aux Pays-Bas, je vous ai bien expliqué que c'est la mafia qui fournit les coffee shops. Par contre, la consommation est dépénalisée. Donc, il y a une contradiction dans les termes qui font qu'il y a toujours un problème de trafic. Ouais. C'est uniquement ça. Hein.
François-Michel Lambert, un point juste sur le cannabis thérapeutique. Il y a visiblement un consensus, il y a eu un débat au Sénat qui s'est conclu avec une quasi-unanimité, c'est rare, des parlementaires en faveur de l'usage du cannabis médical. Quelle forme ça pourrait prendre ?
Je vais y revenir. Je finis de préciser qu'avec les 2 milliards d'euros, nous avons un plan Borloo pour les banlieues qui nécessite 2,6 milliards de financement annuel. Donc, nous sommes prêts à répondre aux défis des quartiers qui vivent du trafic. Ça n'enlèvera pas, évidemment, ceux qui voudront continuer à être dans l'illégalité. Qui peut croire qu'on a des solutions miracles? Mais au moins, nous repousserons une partie de cette illégalité.
Et les canabiculteurs qui cultivent pour se soigner, comment vous allez faire?
C'est prévu dans ma proposition de loi qui reste une proposition de loi qui devrait être débattue. Je rappelle que jamais l'Assemblée nationale, le Sénat, n'a débattu du cannabis. C'est même prohibé comme sujet au Parlement. Moi, ma proposition de loi n'est pas un sujet fini, c'est un sujet de débat. Mmh. Et nous proposons qu'il y ait une tolérance de 5 à 8 plants par personne qui voudrait cultiver pour eux-mêmes. Je reviens sur la question du thérapeutique. C'est bien la preuve de cette majorité que j'ai quittée qui...
La République en marche.
Qui ne veut plus avancer sur les sujets de société. Le cannabis thérapeutique, il est prévu au 1er janvier 2020, 18 mois d'expérimentation dans quelques régions, on fera le bilan et après peut-être que on donnera à ceux qui ont besoin, on n'a pas parlé au cours de cette journée, mais on donnera à ceux qui ont vraiment besoin de ce cannabis pour des problèmes de santé lourds, on leur donnera peut-être l'autorisation en 2022, 2023, 2024. Moi je dis comment on peut se regarder dans la glace quand tous les autres pays du monde au moins de notre même strate de société sont en train de d'ouvrir le cannabis thérapeutique et nous dire c'est pas pour tout de suite, c'est dans 2-3 ans.
Jean-Paul Bruneau,
législatif, je finis sur le cannabis législatif. Il y a eu un article récemment cet été où La République en marche assume de ne pas faire avancer le sujet pour pouvoir l'utiliser en outil politicien lors de la campagne de 2022 pour Macron, pour faire un décalage politique. Et moi, je trouve ça lamentable parce qu'on va dire pendant encore des années à 5 millions de personnes qui sont pieds et poings liés au trafic et aux dealers, eh bien, nous n'avons pas réglé le problème. Nous allons laisser des territoires comme ma propre circonscription soumis à des dealers alors que nous pourrions aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce violemment de la part d'une partie de cette majorité, puisqu'une autre est venue me soutenir, de faire du jeu politicien sur un sujet de société et de santé publique.
Jean-Paul Bruneau, la France est un pays ringard, réac, est soumis à ce type de calcul politique sur le sujet du cannabis thérapeutique. Oui.
Alors le thérapeutique, on n'a pas attendu aujourd'hui, puisque le Sativex, depuis 2015, est prescrit à 5000 malades atteints de la sclérose en plaques.
Qu'est-ce que c'est le Sativex ?
C'est un extrait de cannabis, de même que on sait pertinemment que la fumée de cannabis n'a rien de thérapeutique. On extrait certains principes actifs du cannabis pour en faire un médicament spécifique pour atténuer la douleur ou avoir un rôle thérapeutique.
Et il n'y a pas que le Sativex. Il n'y a pas d'autorisation sur le marché. Il n'y a pas eu d'accord avec le producteur du médicament.
C'est très facile de sortir un décret permettant aux malades d'utiliser ce médicament. Mais il n'y a pas que
c'est
ça.
C'est pas prescrit en France.
Il y a le Marinol qui est autorisé, Sativex, un certain nombre de produits.
François Michel, vous êtes à Aix, mais je vous entends soupirer d'ici. Qu'est-ce qui vous excède dans ce qui vient d'être dit?
On parle d'un médicament. C'est beaucoup plus que cela qu'il faut ouvrir. On parle d'une maladie, la sclérose en plaques. Tout le monde sait, vous allez vous renseigner sur n'importe quel site spécialisé, vous dira tous les apports de ce que peut être le cannabis.
Non mais on a des études scientifiques sérieuses qui attestent de l'efficacité de la substance sur ces maladies-là.
Mais pourquoi les autres pays avancent? Et pourquoi la France dit « je vais expérimenter » pour 18 mois avec résultat fin 2021 sur quelques régions, comment moi je peux m'adresser aux malades que je vois et je vais dire tu comprends ou vous comprenez, eh bien ça sera peut-être en 2022 voire 2023 où nous vous donnerons les médicaments que les Suisses, les Espagnols, les Allemands, les Belges, les Luxembourgeois ont droit. Eh bien je ne sais pas répondre moi en tant que politique à la personne qui est face à moi et qui est désespérée d'une telle lenteur alors que les autres pays, pourquoi on ne fait pas confiance à ce qui se passe dans les autres pays? Et on va prendre la Suisse comme exemple.
Fabrice Olivet.
Après, c'est deux sujets différents. Là, il est question de médicaments, et d'ailleurs, c'est complètement aberrant qu'on ait encore un débat là-dessus. Effectivement, comme il vient d'être dit, dans le monde entier, des gens qui souffrent de maladies extrêmement invasives se soignent avec du cannabis, en tout cas, éprouvent moins de douleur avec le cannabis. Ça, c'est un sujet qui devrait...
Ça, c'est un combat d'arrière-garde.
Voilà, vous, uniquement ouais. La question des médecins, et ça devrait être tranché. Après, quand on parle des quartiers, quand on parle de la demande, encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que c'est trop facile de se déresponsabiliser en tant que citoyen. S'il y a un problème de cannabis, entre guillemets, c'est parce que on est une communauté de citoyens qui consomme cette substance à titre récréatif, et qui s'en trouve pas si mal, et qui pense que le fait de réprimer cette demande a beaucoup plus de défauts que le fait de l'organiser. C'est ça le véritable débat. Et encore une fois, les victimes, c'est les gens les plus démunis, parce que démunis socialement, parce qu'effectivement on leur fait jouer ce rôle de leader, mais démunis aussi dans la consommation, parce que c'est pas par hasard si Marie-Geoffrey Zoucide vous a dit que c'est les gens qui sont les plus précaires socialement, qui gèrent le moins bien les dépendances aux produits, et ça c'est vrai pour tous les produits.
Ouais, Jean-Paul Bruno, on arrive, on touche la fin de l'émission, juste pour esquisser une forme de conclusion, le débat sur la légalisation du cannabis aujourd'hui, c'est quelle dimension? C'est une dimension sanitaire ou sécuritaire? Par quel bout on est en train de le prendre aujourd'hui en France?
Je pense que la priorité c'est le sanitaire et l'intérêt général, mais il faut surtout être prudent quand on évolue au niveau des mœurs, et faire évoluer les mœurs rapidement, ça peut être néfaste dans un pays qui est le plus gros consommateur en Europe. D'autant plus que la situation n'est pas très claire en termes de production, en termes de fourniture des produits. Donc ça demandera une loi très cadrante, je dirais, et il y aura toujours du répressif, parce qu'il y a les tricheurs, malheureusement, on le voit déjà aux États-Unis, il y a un débordement systématique dans beaucoup de pays, au niveau du trafic illicite sur des substances parallèles, comme le cannabis synthétique ou des compositions encore plus dangereuses. Donc il faut être très prudent sur l'évolution de la loi, et je pense aller aussi vers les consommateurs pour avoir leur avis, parce que ils sont patients experts, ou ils sont en tout cas experts dans la consommation.
Allez, il est midi 56-57 sur France Inter. J'ai encore une dernière petite question pour mes invités, un peu chaud aujourd'hui.
Le débat de midi sur France Inter.
Allez, on va redescendre un tout petit peu, sans aucune substance, avec ma question rituelle du débat de midi. J'aimerais savoir, je vous pose la question à tous les trois, avec quelle personnalité, vivante, disparue, anonyme ou célèbre, vous aimeriez pouvoir débattre, pas forcément du cannabis, parce qu'on en a pas mal parlé déjà. Je vous écoute. Fabrice Olivier, pour commencer.
Bon, moi, vous m'avez posé la question par texto. C'est clair, c'est Barack Obama. Voilà, pourquoi?
En toute simplicité.
En toute simplicité, parce que j'éprouve une grande admiration pour ce président africain-américain, donc le premier du genre. Je trouve que c'est quelqu'un qui est assez maltraité, parce que bon, on a tendance à dire oui, il a pas fait grand chose, alors que je pense qu'il va marquer vraiment l'histoire de ce début de siècle.
François-Michel Lambert, même question.
Un autre qui aurait dû être président, Bob Kennedy. Qui était aussi très africain, si on regarde son virage après l'assassinat de son frère JFK. Il a porté, dès les années 60, un progressisme qui aujourd'hui nous manque encore. Donc il avait 50 ans d'avance, et il a été assassiné il y a un peu plus de 51 ans. Et je crois que cet homme, par les drames qu'il a subis, par ce qu'il a eu comme vie, avait senti la transformation du monde que nous devions enclencher, et il a été brutalement arrêté. J'aurais bien aimé pouvoir échanger avec lui d'un point de vue virtuel, puisque c'est votre question, pour m'en inspirer.
Et je passe la parole, mais très brièvement, pardon Jean-Paul Bruno, vous avez 10 secondes.
10 secondes. Moi, j'aimerais que Charles Baudelaire revienne nous donner son avis sur l'usage du haschich.
Et oui, on revient au sujet.
Et en particulier sur ce qu'il disait, puisque le cannabis pour lui était antisocial et inutile à l'homme. Donc il y a un débat qui reste ouvert depuis les années 1800.
Allez, merci à tous les trois pour avoir participé à ce débat. Merci à Rémi Sistiaga, Juliette Delperrou à la technique aujourd'hui, Lucie Lemarchand qui était à la réalisation. Demain dans le débat de midi, une question cruelle mais nécessaire. Et si l'infidélité était le ciment du couple ?